Calade.
Ma radio.
Parlons équilibre. Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlons équilibre, une émission préparée par l'association Équilibre et moi sur Calade, ma radio 100.9. Aujourd'hui, et dans le cadre de la journée de lutte contre l'obésité, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Éric Arnal, chirurgien à la Polyclinique du Beaujolais, avec qui nous parlerons de la maladie de l'obésité. Maladie, puisque l'obésité est considérée depuis 1997 par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme une maladie chronique. Bonjour docteur.
Bonjour madame, je vous remercie de votre invitation.
Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ?
Donc Éric Arnal, je suis un chirurgien viscéral qui travaille donc à la Polyclinique du Beaujolais et on pratique avec une équipe développée la prise en charge de la maladie de l'obésité avec évidemment donc un versant chirurgical. On est labellisé par la SOFCO, la Société française francophone de chirurgie de l'obésité et des maladies métaboliques.
Merci docteur. Ces dernières années, en France, l'obésité est devenue un véritable enjeu de la santé publique. Les Français n'ont jamais pesé aussi lourd, puisque 17% d'entre eux, soit 7 millions de personnes, sont en situation d'obésité. Mais dites-nous docteur, qu'est-ce que l'obésité ?
Alors c'est une bonne question, l'obésité, la définition est multiple, mais je pense qu'on peut considérer que c'est un développement des tissus gras, des cellules adipeuses dans le corps humain, avec une répartition des cellules qui est différente entre l'homme et la femme.
Comment et par qui le diagnostic est posé ?
Alors, je dirais qu'il y a un diagnostic social qui consiste au coup d'œil de dire un tel, une telle, surtout si c'est une fille, elle est grosse. Alors que pour le même poids et la même taille, on dira qu'un homme est costaud. Il y a un diagnostic mathématique, l'IMC, index de masse corporelle, rapport du poids sur la taille au carré, qui définit au-dessus de 30 l'obésité. Mais ce n'est pas parce que vous avez un IMC supérieur à 30 pour autant qu'on peut considérer que vous êtes obèse. Il y a par exemple des sportifs, ceux qui font des sports notamment de contact et de physique, qui ont des IMC élevés et qui n'ont pas le caractère d'obésité, probablement liée au développement des cellules grasses. Je voudrais revenir sur un chiffre que vous avez annoncé de 17%, qui, à mon avis, sous-estime. Actuellement, on est plus proche de 20% en 2024 ou 2025 que 17%, qui était le chiffre en 2019 ou 2020, je crois.
D'accord. Merci, docteur. Docteur, lorsque l'on pense obésité, on pense comportement. Et on croit qu'il faut faire du sport et manger moins pour ne plus être gros. Or, on sait qu'aujourd'hui, l'obésité n'est pas uniquement due à un problème d'alimentation et d'activité physique. Quelles sont les causes de cette maladie, docteur ?
Alors, les causes de cette maladie, elles sont... On peut considérer que c'est un apport calorique trop important pour la dépense physique qui consomme ses calories, pourquoi pas. Mmh. Il y a probablement aussi des causes qui sont liées à une façon de vivre plus sédentaire par rapport à une époque, en tout cas actuellement. Il y a probablement une forme aussi qui est liée à nos propres gènes. C'est plutôt ça, une théorie un peu de recherche. Les causes, elles peuvent être aussi environnementales. C'est quelque chose qui évolue. Enfin, on parlait de maladie, c'est aussi une pandémie, c'est-à-dire que ça concerne tous les pays, pas uniquement notre ville, notre région, voire notre pays, qui se développe. Particulièrement dans les pays riches. Le paradoxe, c'est qu'à une époque, on disait que l'obésité était une maladie de gens riches, qui mangeaient bien et bougeaient peu. Mm-hmm. Maintenant, c'est une maladie qui peut concerner les gens riches, mais aussi les gens pauvres, liés à des problèmes d'alimentation, de qualité de l'alimentation, plus que de quantité.
Bien, docteur. Quels sont les principaux facteurs de risque, justement, qui peuvent mener à l'obésité ?
On les a déjà un peu abordés, les problèmes de qualité de l'alimentation, probablement de quantité aussi. Alors c'est lié à la façon de vivre, c'est lié aux habitudes culturelles, c'est lié à plein de choses, à l'évolution de la société. Il y a des problèmes aussi de qualité, mais de quantité évidemment, d'alimentation. Plus vous mangez, plus vous avez de chances d'apporter des calories. Si vous ne les dépensez pas, c'est par exemple ce qu'on peut voir chez les gens qui prennent du poids après avoir fait des carrières sportives, qui ont gardé leurs habitudes de manger beaucoup de calories pour compenser leurs efforts, qui diminuent ou qui arrêtent leur carrière, mais qui gardent leurs habitudes alimentaires. Ils n'arrivent pas à les restreindre au niveau de leur activité du moment. Les autres facteurs de risque, tout ce qui peut amener à déséquilibrer son alimentation, l'isolement, la solitude, le stress, le sevrage de quelque chose, etc.
Bien, docteur. On entend beaucoup parler, ces temps-ci d'ailleurs, d'obésogène dans l'alimentation, l'alimentation ultra-transformée. Qu'en pensez-vous ?
Alors, Madame Guidoum, vous me prenez au dépourvu, ce que je n'avais jamais entendu ce terme.
D'accord.
Mais je pense que c'est lié au fait que ces alimentations transformées portent bien leur nom, puisque des apports de certaines substances, probablement caloriques, mais probablement aussi des substances plus chimiques, non caloriques, qui entraînent des modifications du métabolisme, qui permettent de développer éventuellement des cellules grasses dans le corps humain.
Bien. On va parler des conséquences, docteur. Quelles sont les conséquences de l'obésité sur la santé physique et mentale ?
Eh bien, des questions sur la santé physique. Je vais me concentrer d'abord là-dessus.
Oui. Bah,
si on considère qu'on est tous faits à une taille et des articulations, notamment en rapport avec le poids qu'on est censé avoir théoriquement, si vous augmentez votre poids, si vous mettez un sac de 30 kilos sur vos épaules et que vous vous mettez à courir, vous allez être essoufflé, vous allez tomber. Vous risquez d'avoir mal aux genoux si c'est trop lourd. Sauf que quand vous êtes en situation d'obésité, le sac de 10, 20, 30 ou 40 kilos supplémentaires, vous l'avez en permanence. Donc, quand vous bougez, vous en sentez les conséquences sur le fauteuil, à la table de restaurant. Je vous engage à voir ce que c'est un mannequin qui simule une prise d'augmentation de poids conséquente que vous enfilez, qui vous empêche, ou pas qui vous empêche, mais qui vous gêne dans votre déplacement quotidien. Peut-être un jour le ferez-vous, cette expérience, pour vous rendre compte de la situation. Les conséquences psychologiques, je pense que ce sont celles qui mènent petit à petit à l'isolement social. On peut moins se déplacer, donc on reste chez soi. Il y a un regard des gens sur l'obésité. Je bats ma coupe, mais on a tous un jour moqué quelqu'un qui avait des kilos en trop à l'école ou après. Les gens, dans le quotidien, le subissent. Forcément, ça retentit sur leur façon de sourire ou leur façon de vivre reclus ou de ne plus sortir, etc.
D'accord.
J'ai plein d'anecdotes de gens qui ont maigri, des dames essentiellement, qui ont maigri et qui signalent leur changement de vie, le regard des autres quand on va dans un magasin pour s'habiller, quand on sort au resto ou en boîte de nuit.
Donc, vous voulez dire que ça affecte l'estime de soi, la confiance en soi également ?
Exactement, l'estime de soi, la confiance en soi, la qualité de vie au quotidien. J'ai une anecdote d'une dame qui me disait qu'elle avait un IMC, puisqu'il faut bien parler de ça, qui était supérieur à 40, et qui allait tout le temps dans le même magasin pour acheter ses tenues, ses robes, et qui me disait, quand elle rentrait dans le magasin, la vendeuse la regardait et lui disait, pour vous, c'est au fond et à gauche. Et au fond, à gauche, il y avait deux modèles, un modèle noir et un modèle marron. Donc, elle avait le choix entre le noir et le marron dans un magasin où la cabine ne lui permettait pas de changer. Donc, se changeait dans le couloir du magasin.
C'est terrible, hein ?
C'est terrible. Elle peut pas mettre des couleurs roses ou... Voilà.
Et vous pensez que ça peut contribuer à des troubles émotionnels, tout ça ?
Alors... Moi, je suis chirurgien, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais il y a un certain bon sens à dire que quand on se sent, entre guillemets, rejeté, enfin, ce n'est pas entre guillemets d'ailleurs, quand on se sent rejeté par le reste des gens qui vous entourent, effectivement, ça doit affecter votre humeur, forcément.
Et par rapport au traitement, est-ce que, du coup, il faut promouvoir une prise en charge globale ?
Pour le traitement de l'obésité ou le traitement du regard des gens ?
Le traitement de l'obésité. Donc, du regard, ça c'est sûr. Mais on parle à la fois de la santé physique et mentale.
Alors, la prise en charge d'une personne qui présente un problème de poids, effectivement, elle est multiple. On a l'image du tabouret sur lequel on est censé asseoir les gens et qui a plusieurs pieds, et chaque pied représentant un aspect du traitement, alors, évidemment la diététique, l'activité physique pour dépenser, le côté psychologique pour corriger l'accumulation de ce qui a pu se passer pendant des années. Et une question, à quel moment les gens ont-ils pris du poids? À quel moment dans leur vie et pour quelles raisons ont-ils ou ont-elles pris du poids? Parce que le problème peut-être vient-il de là. Et toujours sur les pieds du tabouret, il y a le versant chirurgical qui n'est qu'un des pieds. Et en sachant que ce tabouret ne tiendra debout, si le tabouret représente la personne, que si tous les pieds sont à taille égale, pris dans la bonne mesure, pour traiter la personne.
D'accord. Donc en fait, tous les axes sont interdépendants?
Tous les axes vont dans un même sens, qui est celui de la guérison de la maladie, si tant est qu'on puisse guérir cette maladie, en tout cas de l'amélioration de cette maladie. Si vous faites perdre beaucoup de kilos à quelqu'un, quelle que soit la méthode, vous corrigerez le fait que la personne peut s'asseoir sur le fauteuil et aller dans le magasin choisir la belle robe rose ou aller au restaurant sans être mal assis, mais vous corrigerez peut-être pas la cause qui fait qu'un jour, la personne est devenue obèse. Enfin, le moment déclenchant dans sa vie, si tant est qu'il y en ait un.
Allez, petite pause musicale avec Téléphone. Je rêvais d'un autre monde.
100.9.
Nous venons d'écouter Téléphone, je rêvais d'un autre monde. Revenons à l'obésité avec notre invité, docteur Éric Arnal, chirurgien à la Polyclinique du Beaujolais. Dites-nous, docteur, quand faut-il envisager un traitement médical ou chirurgical ?
Alors, je ne pense pas qu'il faille définir la prise en charge à tel ou tel moment. La question, c'est comment les gens vivent-ils leurs problèmes de poids ? Vous pouvez avoir des gens malheureux parce qu'ils ont un IMC à 27, mm-hmm. et d'autres très heureux parce qu'ils ont un IMC à 30, 32.
Oui.
Est-ce que pour autant, il faut ramener tout le monde à un IMC dit non obèse à moins de 30 ? C'est une question. Il n'y a pas d'IMC normal. Il y a des gens qui sont heureux de vivre et qui supportent bien leur façon de vivre. On est d'accord que le retentissement, notamment, comme on en a parlé, entraîne des conséquences physiques, psychologiques, médicales. On pourra en reparler plus tard, notamment le rôle dans le cancer, si vous êtes d'accord.
Mmh.
Et quand est-ce qu'il faut traiter des problèmes de poids ? Ben, peut-être avant d'en avoir. C'est une question que vous me poserez plus tard. Et puis, adapter les moyens qu'on se donne au retentissement dans la vie quotidienne du problème de poids quand il y en a.
D'accord. Et quelles sont les options thérapeutiques, justement, disponibles ou qui s'offrent à nous, justement, pour traiter la maladie de l'obésité ?
Alors, l'analogie avec le tabouret qui repose sur plusieurs pieds montre bien qu'il n'y a pas une seule façon de traiter. C'est une association alors qui part... effectivement, de l'amélioration de la façon de manger par une éducation adaptée qui commence à la maison. Hein, avec, on mange à des horaires fixes, on ne mange pas entre les repas, on mange équilibré, on mange ce qu'il faut vis-à-vis de son activité, des aliments de bonne qualité. Une fois que c'est constitué, l'obésité, peut-être faut-il un versant psychologique, un versant peut-être médicamenteux, un versant éventuellement chirurgical. Augmenter sa dépense de calories chaque jour par des efforts simples du quotidien, l'escalier plutôt que l'ascenseur, la marche plutôt ou le vélo plutôt que la voiture ou le transport en commun. L'activité sportive en réel avec la marche sportive, la salle de sport, la natation pour augmenter sa dépense calorique. Mais c'est souvent, on est d'accord, une éducation pour éviter d'arriver dans ce stade-là hein, qui commence dès l'enfance.
Oui.
Bien sûr, chez les parents, sans être institutionnalisé. Et puis, après, c'est une association tout au long de sa vie de plusieurs facteurs, de plusieurs traitements, entre guillemets. Il n'y a pas de traitement, il y a une association de moyens pour lutter contre la prise de poids et pour faire diminuer le poids quand on juge qu'il est trop élevé.
Aujourd'hui, de nouveaux médicaments contre l'obésité arrivent sur le marché. Qu'en pensez-vous de ces médicaments ?
Alors, c'est des médicaments alors, qui sont anciens, qui arrivent chez nous en France, mais qui existent dans d'autres pays, notamment dans les pays dont les laboratoires pharmaceutiques ont conçu les molécules, qui sont relativement efficaces, à mon sens, qui ne sont plus prescrits par les chirurgiens depuis le mois de septembre 2024, mais qui doivent être par des médecins nutritionnistes, des médecins diététiciens. C'est des mécanismes complexes. De médicaments qu'on appelle les analogues du GLP-1, qui est une. Le GLP-1, c'est une protéine qui joue à la fois sur la satiété, c'est-à-dire la sensation de faim, la sensation de ne plus avoir faim, etc. C'est un mécanisme assez complexe qu'on peut utiliser dans le traitement d'autres maladies d'ailleurs.
Et sont-ils efficaces, justement ?
Ils sont probablement efficaces, avec évidemment, comme chaque médicament, des effets secondaires qui semblent maîtrisables. Ils ont un coût. Actuellement, en France, les gens sont habitués à avoir un remboursement de leur consommation de soins par la Sécurité sociale. Ces médicaments ne le sont pas tous remboursés actuellement.
D'accord. Quel est, docteur, le rôle du médecin traitant ?
C'est un rôle fondamental, c'est un rôle de pivot, c'est un rôle indispensable qui commence, puisque les médecins traitants, qui est le médecin de famille, il va voir les gens depuis l'enfance jusqu'au moment où... l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte peut-être partira dans une autre région travailler, mais il y a un rôle de simplement éducatif, d'information peut-être des jeunes parents pour leur enfant, pour l'enfant, un rôle de dépistage d'éventuelles maladies qui peuvent être à l'origine de problèmes de poids. Un certain nombre de maladies à dépister qui sont souvent des maladies complexes qu'il faut savoir dépister, qui relève d'un traitement médical pur spécifique. Il y a un rôle aussi d'orienter vers tel ou tel spécialiste, psychologue, diététicien, quand le médecin traitant ne pense plus avoir les moyens de prendre en charge le problème de poids. C'est un rôle d'observation, de pivot, d'orientation. Ben, c'est le rôle du médecin de famille, comme pour toute pathologie.
Oui, tout à fait, du médecin de famille. Vous avez bien dit, docteur. Docteur, on dit que le meilleur traitement de la maladie de l'obésité, c'est la prévention. Qu'en pensez-vous?
Vous avez la réponse dans la phrase. Oui. On considère que c'est une maladie et toute maladie, il vaut mieux la prévenir. Se vacciner contre la grippe ou la tuberculose, ça marche bien. Avoir les idées claires sur la façon de se nourrir, ça marche probablement aussi très bien pour éviter de prendre trop de kilos.
D'accord.
Je pense que la prévention, ça commence à l'éducation, avec l'éducation à la maison, dans la famille.
D'accord. Et la prévention, quel exemple vous donneriez, vous, pour prévenir, justement, cette maladie?
Trois repas par jour équilibrés avec des aliments qui sont frais et pas achetés, des aliments transformés, comme vous disiez tout à l'heure. Pas de grignotage, une alimentation donc équilibrée, une activité physique, une vie de manière générale équilibrée. On l'a dit, les problèmes de poids sont souvent liés aussi à des problèmes psychologiques. Alors l'un entraînant l'autre, on ne sait pas dans quel sens. Voilà, c'est plus une prise en charge globale qui commence, je maintiens, à la maison quand on est jeune. Si le jeune enfant voit ses parents toute la journée à manger des chips et boire des sodas en regardant la télé, il est clair que il a moins de chances d'avoir un poids en rapport avec sa taille que son voisin dont les parents font du sport, mangent pas de plats transformés, achètent des légumes frais, etc.
Oui, tout à fait. Docteur, l'obésité est un véritable tabou de société aujourd'hui. On va parler un peu du regard que l'on porte sur ces personnes en situation d'obésité, souvent stigmatisées, comme on l'a dit d'ailleurs, alors qu'elles sont malades. Docteur, arrivez-vous à faire évoluer justement les mentalités, à faire bouger les lignes et à changer la perception de l'obésité?
Alors moi, personnellement, absolument pas, mais je pense que c'est plus des associations dont vous êtes la présidente qui, à force de discussions, de rencontres, notamment dans le grand public, font prendre conscience que c'est une maladie. Parce que je ne sais pas si beaucoup de gens ont conscience que l'obésité est une maladie. Comme vous avez présenté d'emblée l'obésité lors de votre début d'intervention. Voilà, je pense que pour la plupart des gens, il y a des gros et des grosses. Et c'est plus stigmatisant pour une dame que pour un homme, d'ailleurs. Voilà. Mais moi, personnellement, non, je ne modifie pas le regard des autres sur l'obésité. Je ne suis pas obèse, mais je souffre pour ces gens réellement quand elles me racontent. C'est souvent des dames qu'on voit dans mon cabinet, quand elles racontent les conséquences de leur poids dans la vie quotidienne.
Merci docteur, Parlons Équilibre touche à sa fin. Nous espérons que cette émission a répondu à vos interrogations sur la maladie de l'obésité. Docteur, nous nous retrouvons prochainement pour parler de la chirurgie bariatrique et si vous le voulez bien, à tout bientôt sur Radio Calade 100.9.
Au revoir Madame Guillaume, merci.
Calade. Ma radio.
Parlons équilibre.